Ben, on fait hop, 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 et puis voilà.
Actuel et lui.
Actuel et lui.
Actuel et lui.
Je vais vous faire une chronique musicale.
Alors, j'avais décidé, par légèreté d'esprit, de vous parler de mes petits plaisirs solitaires.
Je vais vous parler de télé.
Comment se soigner par les plantes.
Je parlerai de la gaudriole.
Quels sont les accessoires incontournables qui vous mettront en valeur? Mesdames et messieurs, je vais vous donner quelques petits conseils pour être au top. Alors, à vos stylos.
Messieurs, n'hésitez pas à faire comme moi, à tester et à vous faire votre idée.
Actuel et lui.
Actuel et lui.
Actuel et lui.
Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans un nouveau numéro d'Actuel et lui. Bonjour Anne-Marie.
Et coucou Guillaume.
Alors nous ne sommes pour l'instant que deux de l'équipe type, hein, puisque notre troisième acolyte Caro devrait pas tarder à nous rejoindre.
Exactement,
mais nous ne sommes pas seuls dans le studio.
Exactement, on avait prévu une surprise pour nos chers auditeurs et la surprise s'appelle en tout cas pour le moment Aurélie, tu es mon invitée.
Oui.
Et Julia, qui est mon invitée, bonsoir.
Bonsoir.
Ah oui, alors vous
bonsoir, dites bonjour. Hein.
Voilà. Alors, ah bah oui. Voilà, forcément.
C'est quand je suis là, il y a une fluctuation temporelle.
Forcément, vous l'aurez compris, cette émission est enregistrée. Et donc on l'enregistre, on est lundi soir, il fait soir. Donc,
il fait soir,
c'est mignon ça.
Il fait nuit.
Bien, alors au programme, on commencera comme d'habitude par Anne-Marie.
Allez.
Et de quoi vas-tu nous parler?
Alors, moi je vais vous parler d'une bande dessinée. Et toi Aurélie?
Alors moi je vais vous parler de... On va faire un petit saut dans le temps. Un petit saut dans le temps. Et je vais vous parler des innovations de 2015.
Très bien.
En 2015.
Alors ensuite on passe à toi Guillaume, tu nous parleras de quoi?
Alors moi je vous ferai une petite revue de presse insolite. Il sera question d'infidélité notamment.
Oh.
Voilà. Bien. Et toi Julia, de quoi vas-tu nous parler?
Moi je vais parler des gens qui sont roux. Voilà. Ah, voilà. Caroline, voilà. De quoi tu vas nous parler?
Alors, Caroline va nous parler...
des enfoirés, je crois.
Des enfoirés, c'est ça. Et son invité, qui se présentera tout à l'heure, qui s'appelle Marie-Pascale, nous parlera d'un site avec plein de ressources intéressantes à découvrir, un site régional.
Si un site internet. Hein.
Un site internet.
Très bien.
Bien, on commence tout de suite avec toi, Anne-Marie, pour de la bande dessinée, donc.
Exactement. Alors, la bande dessinée, d'ailleurs, qui s'appelle Mouse. Bien, alors vous en avez déjà sûrement entendu parler, mieux vous avez lu cette BD d'Art Spiegelman. Si tel est le cas, vous vous demandez pourquoi je vais évoquer dans cette émission intitulée « Actu, elle et lui », donc on parle de l'actualité. Pourquoi donc je vais vous parler dans cette émission de l'intégrale de Mouse composée de deux parties, à savoir la première intitulée « Mon père saigne l'histoire », sortie quand même en 1986, et la deuxième partie, nommée « Et c'est là que mes ennuis ont commencé », sortie pour le coup en 1991. Eh bien, cette œuvre écrite et dessinée donc par Art Spiegelman souligne l'importance du devoir de mémoire, mais surtout du devoir de transmission. Effectivement, l'intégrale Mouse raconte la vie de Vladek Spiegelman, le papa de l'écrivain qui a vécu donc la persécution des Juifs dans les années 30 et 40, et puis qui livre son expérience dans les camps d'extermination. À cette trame narrative autobiographique se rajoute celle concernant le récit de la transmission de la Shoah entre Vladek, le papa, et Arti, le fils, ou Arthur, peu importe, c'est la même chose. Donc, entre le père et le fils, l'écrivain, donc, qui vient régulièrement voir son père pour mieux comprendre son histoire familiale et l'écrire par la suite, ce qui donc donne cette bande dessinée, ou l'enregistrer avec un magnétophone pour ne jamais l'oublier. Ce récit autobiographique alterne donc deux époques, les années 80, les années pendant lesquelles Art Spiegelman écrit son livre, et les années de guerre avec les témoignages bouleversants du passé de sa famille et la vie personnelle de son papa. Autrement dit, avec cette bande dessinée, nous sommes en plein dans l'actu. Il y a encore quelques mois, nous avons commémoré le 70e anniversaire du débarquement de Normandie. Par ailleurs, nous sommes aussi en plein dans les commémorations du centenaire de la Première Guerre mondiale. Et pour les personnes qui nous écoutent en ce jeudi 22 janvier, je rappelle que ce soir, un spectacle nommé « Les 11 tableaux de l'escouade », offrant un regard à la fois contemporain et poétique sur la Grande Guerre, est joué au Théâtre de Mende. D'ailleurs, Julia, tu as deux, trois mots à nous dire concernant ce spectacle.
Oui, alors c'est un spectacle qui est proposé par la compagnie Les Mélangeurs, il me semble. C'est un spectacle qui a été créé en fait à partir de compositions du musicien lausérien Michel Blanc, qui lui-même avait composé à partir des écrits de guerre de son grand-père. Donc le livret de, je sais plus comment ça s'appelle, livret de régiment ou quelque chose comme ça.
Donc c'est quelque chose de très personnel alors.
Ouais, oui, oui, c'est quelque chose de très personnel. Et donc les 11 tableaux de l'escouade, c'est les 11 guerres, les 11 batailles, grandes batailles auxquelles a participé son grand-père. Et il y a aussi tout l'aspect psychologique de la guerre qui est abordé en fait. Je sais pas comment dire, il y a les mutineries, il y a le rapport des hommes au front, etc. Et voilà, donc c'est un spectacle qui mêle musique. Il y a une trapéziste qui représente la femme dans la période de la guerre. Il y a des ombres chinoises, il me semble. Je sais pas s'il y a pas de la danse. Enfin, c'est un spectacle assez complet,
d'accord.
Voilà, qui a été créé et joué pour la première fois sur les lieux de mémoire en fait en Normandie. Et puis voilà, ça sera précédé d'interventions donc de Michel Blanc auprès des écoles, donc des primaires, des collèges, des lycéens. Il parlera de son travail, de sa recherche sur l'histoire et aussi de la création d'un spectacle. Voilà.
Donc on est toujours dans ce devoir de transmission finalement.
Oui.
Et on voilà, rappelle, c'est jeudi 22.
C'est ce soir à 20h30.
Oui, ce soir,
jeudi pour la première diffusion.
Au Théâtre Demande.
Bon alors, exactement. On continue. Et donc, qui est ce Art Spiegelman dont tu nous parlais là? Parce que moi, j'ai pas encore bien compris.
Bon. Alors, né au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, soit en 1948, Art, de son vrai nom, donc Arthur, comme je vous le disais, appelé aussi Artie, est un auteur de bandes dessinées américains. Il est aussi illustrateur et il travaille pour des magazines américains. Il est né de parents juifs qui partent de Suède pour s'installer aux États-Unis. Alors, Art Spiegelman est principalement connu pour son œuvre Maus, donc celle dont je parlais en préambule, grâce à laquelle il a reçu en 1992 le prix Pulitzer dans la catégorie prix spéciaux et citations. Alors pour la petite anecdote, c'est la seule fois que le prix Pulitzer a récompensé une bande dessinée. Voilà, ça montre quand même l'importance de cette œuvre. Alors en outre, Maus fera l'objet d'une exposition au Musée d'art moderne de New York et d'une autre exposition en 2013 au Canada dans la Galerie d'art de Vancouver. Alors, cet album est traduit en 18 langues et se situe en 2012 à la deuxième place du classement des 50 BD essentiels établis par le magazine Lire, alors que je vous le rappelle, le premier tome est sorti en 1986. Preuve de l'importance de cette œuvre, finalement intemporelle. Et puis, notons que Art Spiegelman a été décoré de l'Ordre des Arts et des Lettres par Frédéric Mitterrand, à l'époque ministre de la Culture, puisque c'était en janvier 2012, après avoir présidé la 39e édition du Festival d'Angoulême.
Et alors donc, cette bande dessinée Maus fait donc référence à son histoire et à la grande histoire.
Alors, à travers ce roman graphique, l'écrivain évoque donc sa vie, mais surtout celle de son père, évidemment, Vladek, et celle de sa mère, Anja, ou Anja, tous deux juifs. Alors, son personnage, alors âgé de 30 ans dans cette bande dessinée, décide de se rendre dans l'appartement de son père à New York, car il souhaite réaliser une bande dessinée relatant l'ensemble des événements vécus par son père lors de cette guerre mondiale. Son père, Vladek, qui souffre de nombreux problèmes de santé, accepte. Donc on est aussi dans ce sentiment qu'il faut aller vite dans cette transmission aussi de vécu, finalement. Commence donc le récit de ce rescapé juif des camps nazis qui se marie en 1937 avec la fille d'un riche couple polonais, Anja. L'invasion allemande, le rationnement, les privations, la peur, puis la vie à Auschwitz, les humiliations, le froid, la faim, la haine, le travail forcé rythment ce témoignage poignant. À travers une mise en abîme réussie, puisqu'on lit une autre BD, très courte, nommée Prisonnier sur la planète Enfer dans la BD Maus, qui évoque quant à elle donc, le suicide d'Anja, la maman de l'écrivain, qui a survécu, comme le père, au camp de concentration, mais pas au complexe dit du survivant, puisqu'elle s'est suicidée en 1968. Au-delà de ce récit historique et autobiographique, la caractéristique principale de cette bande dessinée, c'est la transposition systématique des personnages dans un univers animalier. Donc en fait, les nazis sont représentés par des chats, les juifs par des souris, d'où le titre Maus, puisque en allemand, Maus, ça veut dire souris. Les Polonais sont des cochons, les Américains des chiens et les Français des grenouilles. L'acharnement des Allemands contre le peuple juif est donc symbolisé dans Maus par l'incontournable poursuite entre le chat et la souris. Enfin, l'autre caractéristique du livre se situe au niveau des dessins qui sont sobres. Les deux tomes sont en noir et blanc, ce qui renforce le caractère dur et froid de cette époque à la destinée si tragique. Alors vous l'aurez compris, hein, je vous conseille vivement de lire cette bande dessinée qui ne ressemble en rien aux autobiographies de survivants, telles Si c'est un homme de Primo Levi ou de récits racontés par des historiens. Ce roman graphique semble faire l'unanimité, donc je lirai pour ça trois citations. Alors la première, c'est celle du Point. Alors le Point a écrit hein, « Pourquoi cette simple bande dessinée est-elle un très grand livre ? Parce qu'elle est à la fois récit issu de la mémoire et essai sur la mémoire. » Alors on a aussi l'écrivain italien Umberto Eco qui écrit « Maus est un livre que l'on ne referme pas, même pour dormir. Lorsque deux des souris parlent d'amour, on est ému. Lorsqu'elles souffrent, on pleure. » Et puis la Quinzaine littéraire a écrit « Maus n'aurait pu être qu'original, c'est un chef-d'œuvre. » Voilà. Alors je crois que toi Aurélie, tu l'as lu, non ?
Oui, je l'ai lu effectivement. Et les petites, on oublie vite en fait que c'est des petites bestioles, oui. Les petites souris, le chat, etc. En fait, on se rend plus compte, mais ça permet, je pense, un peu de distanciation. Sinon,
Puis c'est vrai que ça, on apporte un autre regard finalement sur cette période. Voilà. Encore une fois, comme je disais, on est loin des autobiographies des survivants, mais c'est original aussi de traiter, je trouve, cette période sous cette forme-là.
Et puis même quand on voit, puisque donc t'as amené l'ouvrage, on est, c'est pas vraiment une BD au sens, déjà le format n'est pas identique. On n'est pas sur un grand format.
On est sur un format
fin,
d'un livre.
Mais on dirait vraiment un livre, voilà. Quoi. Oui. D'où le nom, ouais, de roman graphique, parce que c'est pas vraiment une bande dessinée, quoi.
Mais c'est vrai que par rapport juste aux animaux, moi au début je me suis dit si ça se trouve j'ai pas arrivé à rentrer dans l'histoire à cause des animaux. Et puis c'est vrai qu'au bout de 2-3 pages, voilà, on oublie attention. Complètement que ce sont des souris ou des chats. C'est vrai.
Bien, alors qu'est-ce que tu nous proposes d'écouter pour rester dans cette thématique ?
Voilà, alors on va rester dans cette thématique, mais on va parler de la Première Guerre mondiale. Enfin, plutôt, on va écouter une chanson qui date de la Première Guerre mondiale, qui s'appelle « La Madelon ». Et alors, il faut savoir qu'en fait, elle a été tellement populaire, tellement chantée par les poilus, qu'on l'a surnommée « La Marseillaise des tranchées », à tel point que les Allemands pensaient que c'était, voilà, notre Marseillaise. Voilà, donc je vous écoute, je vous propose d'écouter « La Madelon ».
Pour le plaisir du militaire, il est là-bas à deux pas de la forêt, une maison au mur tout couvert de lierre, au Doulou, c'est le nom du cabaret. Là, c'est mon déjeuner joli, légère comme un papillon, comme son vincent de pitié. Ce n'est que Madelon, mais pauvre c'est l'âme. La Madelon vient nous servir à boire. Sous la tonnelle, on prend le saut du fond. Et chacun lui raconte une histoire à sa façon. La Madelon, pour nous, n'est pas sévère. Quand on lui prend la taille de mon corps, elle le risque. Que c'est l'autre, ça nous fait bien plaisir. Quand Madelon vient nous
Oui, alors on retourne donc sur cette émission un peu spéciale, hein, puisque ce n'est pas seulement Actu, elle et lui.
Mais c'est Actu, elle et lui, and Friends.
Voilà, et donc ma friend, bah, c'est Aurélie, hein, une ancienne quand même, voilà, voilà, de cette émission.
Je pars par la porte, je rentre par la fenêtre,
c'est ça. Et alors donc aujourd'hui, tu as décidé de nous parler innovation en 2015. Et alors plus particulièrement du 21 octobre 2015, et pourtant c'est pas ton anniversaire.
Non, c'est pas mon
donc,
anniversaire.
Qu'est-ce qui se passe?
Ni le tien de Marie, ah, ni le mien.
Non,
le
ça vous évoque pas grand-chose.
Non, 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 non. Non, mais alors, bon, la alors, fin du monde...
Non, ça c'était 2012, donc je vais vous donner un petit...
En même temps, c'est pas que 2012, hein,
non, parce que j'en suis sûre
ça va revenir.
Oui, oui. Bien. Alors, donc, le 23, je vous donne un petit indice, donc le 23 octobre dernier, donc 2014, ça faisait 29 ans que le premier volet de la saga Retour vers le futur traversait l'espace temporel et atterrissait dans nos salles de cinéma. Un premier volet qui a connu le succès qui désormais fait partie du panthéon du culte cinématographique. Michael J. Fox y incarne le rôle de Marty McFly, un jeune lycéen, ami avec un professeur un peu loufoque, Emmett Brown. Ce dernier lui fait découvrir sa dernière trouvaille, une voiture, la célèbre DeLorean, qui peut voyager dans le temps. S'en suivent alors toutes sortes d'aventures et de mésaventures.
Alors juste une petite précision, c'est vrai quand même que dans nos émissions, nous étions donc tous les trois avec Guillaume, il y avait toujours des petits soucis quand même, des voilà. Soucis temporels. Alors là, bah, ça continue, tu nous parles du 21 octobre, finalement du 23.
Tout ça dans une émission enregistrée en plus.
Voilà, pour le 22 janvier. Bon.
Bah effectivement, donc le 21 octobre, c'est la date justement du réglage de la fameuse DeLorean. Et donc tout ça pour se retrouver au bon endroit de l'espace-temps, justement pour essayer de recadrer les choses. Donc le 21 octobre 2015, c'est la date à laquelle donc Marty McFly arrive dans le futur. Et le futur, bah, c'est maintenant. Si vous en doutez encore, vous pouvez vérifier. Ils sont tous morts de rire. Allez, vous pouvez tous
le futur, c'est maintenant.
Voilà.
Oui, c'est à nous.
Alléluia.
Un nouveau slogan.
Tu te lances dans la politique, Aurélie.
C'est l'effet cantonal.
C'est ça, voilà. Donc, si vous en doutez, je vais plutôt vous donner une activité plus intéressante. Vous pouvez regarder le film. Ça vous donnera toujours une bonne excuse. Donc, pour visionner pour la 43e fois l'épisode 2 ou voir pour les plus assidus la trilogie complète. De toute façon, à l'occasion du 30e anniversaire donc, du film de Zemeckis, Universal Pictures prévoit une série de projections qui vous donneront l'occasion de revoir toute la trilogie. En plus, ces projections seront enrichies de la présence de plusieurs orchestres qui accompagneront les dites diffusions et seront chargés de reprendre la bande originale de Retour vers le futur, donc, qui avait été composée par Alan Silvestri en 1985. Donc voilà, nous y sommes. Dans cette année, dans ce monde, celui qui stupéfiait le jeune Marty McFly il y a un quart de siècle. Ce monde, dont Robert Zemeckis, le réalisateur, et Steven Spielberg, son producteur, ont eu quelques belles intuitions. Vous vous en souvenez ? Dans le film, on a des écrans plats, des lecteurs d'empreintes, des objets connectés, des images en 3D. Il y avait déjà tout cela, et c'était en 1989. Bon, alors, je reconnais, il y avait aussi des pizzas déshydratées et des skateboards volants. Ça, on en voit moins.
Les pizzas déshydratées...
Et le réhydrateur qu'il y avait avec, hein, une sorte de micro-ondes un peu... Enfin bon, après tout, il nous reste 9 mois. On verra. Peut-être que d'ici là, on aura la pizza déshydratée et le skateboard volant.
Sinon, elle a le temps de faire un bébé. Hein.
Aussi, oui. Bah, chacun son hobby.
Merci Anne-Marie.
Il faut s'y mettre dès ce soir.
Voilà.
Pas dès aujourd'hui.
C'est ça. Bah, c'est pour rater la projection. Parce que du coup... Bon, donc selon Retour vers le futur, 9 mois, c'est ce qu'il reste aussi à Mattel, donc pour inventer l'overboard, à Nike, pour inventer les baskets autolassantes, à Spielberg, bon bah pour tourner 15 autres dans de la mer, pour inventer un blouson auto-séchant, des voitures volantes. Et puis aussi, des images de requins en 3D, hein, c'est ce qu'on voit pour la promo de Jay, donc les dents de la mer 19. L'ouverture des portes à reconnaissance digitale, la double cravate portée par le doc, les écrans plats à commande vocale qui diffusent plusieurs chaînes en simultané, les systèmes connectés, les appels téléphoniques de Marty s'affichent sur l'écran de la télé à un moment, et les stores qui diffusent des paysages sur les fenêtres.
Il y a quand même pas mal de trucs qui, à mon avis, sont faisables.
Non, mais qui existent déjà.
Oui, justement, tu vas nous le dire, tout ça.
Voilà, effectivement. Alors, et la, celle auquel vous ne pensiez peut-être pas, c'était les baskets de Marty McFly. Elles sont en vente. Alors, ça vous dirait ? Depuis jeudi et jusqu'au 18 décembre... septembre, jusqu'au 18 septembre.
Je savais qu'il y aurait des soucis temporels.
Avec les dates. Jusqu'au 18 septembre prochain, ces célèbres chaussures sont vendues sur eBay. Pour acquérir l'un des 1500 modèles mis en vente, les acheteurs devront remporter des enchères, dont certaines s'élèvent déjà à 4000 euros. Bon, certes, les semelles sont luminescentes et alimentées par une batterie capable de tenir 3000 heures, mais pour le dispositif de lassage automatique, rien n'est encore prévu. Et ni pour le skateboard volant, hein, malheureusement.
Enfin bon, des baskets qui font de la lumière, ça fait déjà quelques années que ça existe.
Oui, hein. Mais elles ont le même look que celles de Marty McFly. Mmh.
Et d'ailleurs, surtout, c'est pas très beau. Hein.
Bon, et puis c'est très pénible quand tu vois un spectacle.
Non, mais c'est bah après, c'est pratique quand tu vas aller aux toilettes dans le noir, au pire.
J'étais en train d'y penser, je te disais au moins, ça c'est du
c'est le côté pratique.
Tu ne nous avais pas parlé de pantoufles comme ça en début d'année ? Si, il me semble bien qu'il y avait dans. Oui, oui, oui.
Ah non
oui, si, si, si,
toujours
si,
pour aller aux toilettes dans le
oui,
noir.
Oui, si, si. Qu'on s'était justement posé la question. Non, si, non. Si, si, je suis sûr.
Bon, en tout cas.
Enfin, moi,
j'en ai jamais eu, en tout cas.
Non, mais tu nous avais parlé justement de produits innovants. Tu t'en souviens pas, voilà, c'est ça.
Voilà.
C'était peut-être pas moi.
Tu ne t'auto-écoutes pas.
Bah, c'est surtout peut-être que c'était pas moi,
ça. Je crois bien que c'était toi.
Allez, c'est pas grave. Aurélie.
Donc, même s'il s'agit avant tout d'un phénomène de marketing viral, vous vous en doutez, pour Nike, cette opération est quand même lancée pour la bonne cause, puisque les bénéfices seront reversés à la fondation de Michael J. Fox pour la recherche contre la maladie de Parkinson, une affection neurologique dont l'acteur de 50 ans souffre lui-même.
Voilà, ça c'était pour les baskets, et puis alors pour la voiture volante ?
Eh bien, c'est presque ça. Il y a quelques jours se tenait à Las Vegas le Consumer Electronic Show, CES, le plus grand salon d'électronique grand public du monde. Et l'innovation phare de cette année, c'est la voiture autonome. Google a été le premier à dégainer, mais depuis, tous les constructeurs automobiles s'y mettent. Alors, ça ressemble à une voiture, tout ce qui est le plus classique, car tous les petits radars, l'électronique, tout est caché. À l'intérieur, en fait, une petite modification tout de même, à côté du levier de vitesse, un gros bouton rouge. C'est le dispositif d'arrêt d'urgence, parce que si la bagnole décide, quand même, vous pouvez buzzer pour tout arrêter. Donc, ça marche après comme une sorte de régulateur de vitesse. Vous avez donc le bouton pour l'activer, celui pour la désactiver. Et une fois qu'on l'a activé, la voiture va prendre le contrôle de la direction et la voiture se conduit toute seule. Elle accélère et elle décélère toute seule. Bon, d'accord, elle ne vole pas. Mais oui, c'est quand même un peu de la science-fiction.
C'est ce que j'allais dire, c'est quand même un peu une grosse escroquerie là, ce dont tu dis.
On peut même se tourner, on peut même se mettre dos à la route, hop, et tourner les sièges à 180 degrés. Et pour
oui,
être,
c'est là pour c'est appuyer sur le bouton.
Bah, c'est celui qui est à l'arrière qui buzz. Ouais. Voilà.
D'accord. Niveau... T'es sûr que tu t'es pas trompé avec The Voice, non? C'est pas une émission comme ça. Bon, alors tu nous as trouvé, je suppose, d'autres inventions, Aurélie. Et par exemple, un lave-linge. Alors ça peut intéresser pas mal de personnes, qui fait deux lessives en même temps.
Mais alors, ça m'a beaucoup plu quand j'ai lu ta chronique hier.
Je m'en doute. Vous êtes débordé donc par la quantité de lessive à faire. Donc le groupe sud-coréen LG Electronics a conçu un lave-linge permettant de faire tourner deux lessives en même temps. Un deuxième tambour, plus petit, est caché dans un tiroir placé sous le lave-linge. Donc en apparence, il est classique, mais en fait, hop, il y a ce petit donc twin wash system qui permet, avec une seule arrivée d'eau, donc de faire tourner deux charges en même temps, avec des programmes, des températures différentes. Donc vous ne mélangez plus couleur et blanc, du coup, plus de linge rose. Cette machine est bien sûr connectée, et les cycles peuvent être programmés grâce à son téléphone mobile et son application.
Et alors ça, c'est pour quand ?
Eh bien, figurez-vous.
Moi, je vais l'acheter. Hein.
Bah voilà, je m'en doutais bien. Effectivement, la commercialisation est prévue pour le deuxième semestre 2015. Et Guillaume et ses deux iPhones vont pouvoir devenir le roi de la tâche ménagère.
Et à ça va coûter.
Alors, je ne sais pas si tu vas te ruiner ou pas, parce que ça n'a pas été encore divulgué.
Ok. Bon, et alors ensuite, apparemment, tu as trouvé un objet pour moi.
Ah oui, un objet pour toi, oui, mais interdit pour le Marvejol Monde. C'est des patins à roulettes connectés pour marcher plus vite. Donc c'est une invention française, les rollkers, qui ressemblent à des patins à roulettes. Mais son inventeur préfère les décrire comme un accélérateur de marche. Il se fixe sous la chaussure, donc sous la plateforme où l'utilisateur pose son pied, avec chacun des petits patins qui comptent 4 roues. Ensuite, une batterie, un petit moteur électrique et un système électronique de contrôle. Ce dernier donc, va permettre de stabiliser l'appareil quand on monte dessus. On ne risque pas de chercher une position d'équilibre avec, comme sur des patins à roulettes traditionnels. En fait, la sensation a l'air d'être assez proche de celle d'un tapis roulant.
Donc on ne marche pas.
On roule, voilà. Et en fait, effectivement, le rollker se connecte aussi sur un smartphone, donc tu peux les personnaliser, fixer la vitesse maximale, régler l'intensité de freinage. Pour pas te casser
la
gueule.
Du coup, là, t'as l'air vachement malin s'il y a quelqu'un qui te pique ton téléphone, quoi.
C'est ça. Mais moi, j'en rêve. J'espère qu'elle va en avoir. Pourquoi ? Et qu'on pourra la téléguider.
Mais tu es méchante, oui. Tu es enfant méchant, je trouve, quand même.
Ça, sur les pavés,
c'est
en centre-ville, un jour comme un jour de neige comme aujourd'hui, je pense que.
Alors là, t'es heureux, là. Il y en a un qui va être content, c'est l'hôpital. Hein. C'est clair que là, au niveau des urgences, il va y avoir foule. Hein.
Bon, je vois que vous avez déjà beaucoup vous voyez déjà beaucoup d'aspects négatifs.
Un peu, oui. Bon, et tout ça, c'est pour quand, alors ?
Eh bien, alors, justement, les constructeurs aussi voient un peu d'aspects négatifs. Ils sont encore en train de faire des tests. C'est pas encore... Mais s'ils arrivent à régler tous ces petits problèmes, la production pourrait démarrer début 2016.
Bon. Et à quel prix ?
Eh bien, on ne sait pas encore.
Bon, en même temps, on n'avait pas trop envie d'en acheter non plus.
Non, si, on a bien envie que tu les testes.
Voilà, ah bah, je vous remercie.
Bon, alors maintenant, on a donc Caroline et Marie-Pascale qui nous rejoignent.
Qui sont arrivées. Et bah, d'ailleurs, tu voulais faire un petit clin d'œil, je crois, à Caroline.
Tant mieux. Oui, j'avais un truc pour Caroline. En cas de stress pré-bouclage, eh bien, un casque qui capte le stress et vous relaxe. Bon, alors, j'ai pas amené, c'est dommage, de photos du casque, parce que sinon, je suis sûre que, comme pour Anne-Marie, vous auriez absolument voulu que Caroline le teste. Il y en a un rose du meilleur effet.
Ça déstresse les gens qui regardent
qui
aussi.
Qui regardent aussi,
c'est
d'accord. En même temps, Aurélie, c'est toi qui nous as trouvé ces objets. Oui. Ça serait plutôt à toi de les tester.
Non, je les teste sur vous.
Parce que toi, t'en as des bonnes idées. Hein.
Voilà. Moi, je cherche les idées et ensuite, je les teste sur vous. Donc, cette autre trouvaille, en fait, donc, c'est également de la French Tech. C'est la start-up MyBrain qui l'a conçu, donc Melomind, capable de capter le stress vis-à-vis une mesure... Pardon.
Via.
Pas vis-à-vis, via. Il va capter le stress via une mesure d'activité cérébrale. C'est trop dur à dire. Via une mesure d'activité cérébrale. Et pour ne pas en rester là, à nouveau une application mobile. Je vous ai dit, c'était que des objets connectés.
Ça va pomper sur la batterie de votre portable.
Voilà. Et donc, ça propose une séance de relaxation adaptée avec une petite musique. Et ensuite, l'historique va nous permettre de savoir si vous parvenez à évacuer correctement la pression. Voilà.
Bon, et alors ça, c'est pour quand ? Ça va coûter combien pour
courant 2015. Et là, il va falloir qu'on casse notre tirelire 235 euros environ.
Ouais, ça fait quand même cher.
Quand même un peu,
cher. Mais elle aura vraiment l'air ridicule et détendue. Ah, c'est 2 ans, non ?
Bon, alors tu as encore des idées pour d'autres personnes. Alors cette fois-ci, celles qui regardent la télévision au lit. et qu'ils ne veulent... Ah, et ces personnes-là ne veulent pas déranger leur conjoint.
Ah, c'est quand même sympa. Donc, c'est des écouteurs en bandeau pour profiter de la musique ou de la télé sans déranger les gens qui sont tout autour. Donc ça,
parce que généralement, t'es 10 dans ta chambre.
Bon, moi, je veux pas savoir ce qui se passe dans sa chambre.
Oui, c'est ça. Non, mais là, tu nous fais peur, Henri.
Bah, ne serait-ce qu'une autre personne, ça suffit à la déranger. Donc, repéré sur le site américain Wire. C'est toujours mon super anglais. Donc, cette innovation toute simple pourra enfin vous permettre de vous endormir en écoutant de la musique sans être gêné par votre casque ou vos écouteurs. Sleep Phone est un bandeau audio qui s'applique autour du casque et recouvre les oreilles.
Autour du crâne. Ce n'est justement pas un casque.
Tu veux me prendre le casque. En même temps, on dit toujours, t'as un pet au casque, ton crâne, c'est un casque, pareil.
Bon alors, on le met autour de...
Ou sinon, tu dors peut-être avec un casque la nuit, non, Aurélie. Avec 10 personnes autour de toi. C'est pour ça que tu dors avec un casque. Oh, tu dois être belle. Je te raconte pas. S'il y a un incendie à minuit, Aurélie, avec un casque sur la gueule, alors là, paye la photo. Hein.
Mes slipphones et mes 10 amants.
Bon, ben voilà, c'était l'épisode pour le bêtisier voilà. De l'année 2015.
Je vous remercie.
Ça, c'est fait. Bon, pouf. Donc...
Donc, un bandeau.
Le hein. Je suis pas sûre que je vais y arriver. Et qu'est-ce qu'il fait ton bandeau?
Bah, il diffuse du son. Et la qualité sonore, elle est comment? Moi, je pense qu'elle doit pas être aussi bonne qu'un casque.
Non, elle est pas terrible,
elle
mais
est pas terrible.
Elle suffit à regarder une série un peu tard le soir, donc sans déranger ton conjoint.
Voilà, on a bien
voilà. Et ça alors, coûte c'est pas très cher, c'est ça. Ça existe déjà.
Ah bon? Ah bah c'est oui. Pas. Bah tu dois l'avoir.
Et alors, ça coûte combien?
Bon, si ça se trouve, ça doit coûter environ 85€, non?
C'est ça. 85. Pour le sans fil et 33€ avec le fil.
Oh, ça va. C'est pas cher. Bon, allez, on continue quand même.
Hein. Mais c'est une bonne innovation parce que.
Voilà. Et Caroline arrive sans son casque. Bon.
Non, mais
allez,
c'est vrai que c'est, quand on est dans son lit, c'est parfois très gênant pour pouvoir.
Bah sinon, de la musique, bah, ou... tu t'es pas dans ton lit pour faire ça. Tu vas dans le salon, je sais pas.
Bah oui, mais quand t'es sur voilà. Ta tablette comme ça, en train de.
Voilà.
De t'endormir, bah si t'as ton bandeau casque, c'est très pratique.
Bon. Alors, on passe peut-être à autre chose. Hein,
voilà.
Un truc indispensable cette fois-ci, peut-être, avec un mini boîtier pour retrouver ses clés ou son sac. Et ça doit être franchement.
Ou les clés au fond du sac.
C'est ou les pas clés mal. Au fond du sac.
Donc, encore une invention française. Donc, à Neuilly-sur-Seine, Haute-Seine, trois frères ont eu l'idée de géolocaliser à l'aide d'un smartphone les objets perdus grâce à un mini boîtier. Donc, fixé aux clés ou glissé dans un sac. Il bip lorsque le propriétaire approche et ensuite on est guidé par un service de géolocalisation. Donc ça existe déjà en fait. Ça coûte pas très cher. Mais alors moi j'ai fait un test quand même, je vous le dis, parce que quand même vous dites que je teste jamais mes trucs. Donc là j'ai testé et j'ai fait avec mon téléphone. Et alors le service de géolocalisation, alors que j'étais place Charles de Gaulle, bon bah lui il me repérait sur le Causse d'Auge. Alors je me suis dit, bah pour mes clés dans mon sac, ça va pas bien m'aider quand même.
Donc pas très pratique.
Je sais pas, peut-être que ça va s'améliorer, hein, mais pour l'instant, bof.
Bien. Alors sinon, tu as encore peut-être d'autres innovations du même genre à nous citer.
Des trucs très utiles. Alors je me rappelle de ta chronique sur les brosses à dents. Mm-hmm. Du coup, j'ai trouvé une brosse à dents connectée. Après, la fourchette connectée pour manger moins vite.
C'est vrai qu'on en avait parlé l'année dernière.
Qui avait fait grand bruit l'an dernier. Donc cette année, une trouvaille. Justement, on l'évoquait sur le ton de la plaisanterie. Et ben non, pas du tout. La brosse à dents connectée est arrivée.
Et alors, elle fait quoi cette brosse à dents?
Elle mesure la durée et la qualité du brossage et va même alerter votre dentiste automatiquement.
Oh, le pauvre.
Encore une appli. Dès l'apparition d'une carie. Donc ça fonctionne donc, avec une appli qui s'appelle Colibri, en plus c'est joli, hein. Ça doit sortir donc courant de l'année aux États-Unis et j'ai déjà le prix, donc entre 100 et 200 $. Bon bah c'est clair, ça fait quand même cher pour une brosse à dents de geek. Hein.
Oui,
et
puis moi je plains surtout le dentiste qui va recevoir plein d'alertes, le pauvre.
Pourvu qu'elle soit pas géolocalisée.
C'est ça.
Donc après les dents, on passe à la peau.
Oui. Alors toujours dans le secteur de la santé, le français Netatmo nous a dévoilé June, un bijou qui mesure l'exposition au soleil. Donc connecté là encore avec une application mobile, il calcule l'exposition journalière maximale et envoie des notifications en cas de dépassement.
Bon, ça c'est pas mal.
Ça, c'est rentrer à la maison, rentrer à la maison, rentrer à la maison.
Et ça peut peut-être marcher pour la vaisselle aussi.
Du coup, si on n'a pas de coup de soleil, on peut peut-être mieux dormir la nuit.
C'est ça, avec le dernier gadget que je vous ai trouvé, donc un assistant de sommeil. Donc Weefing, le père de la balance connectée, annonce Aura, un objet connecté pour améliorer la qualité du sommeil en détectant les mouvements du corps grâce à un capteur placé sous votre matelas. Et là, je vous imagine déjà, vous pensez tous à ma chambre. Donc vous arrêtez maintenant, il n'y a pas 10 personnes et un truc sous mon matelas. Non.
Oh bon.
Donc le parleur diffuse ensuite
ça ne nous regarde pas.
Sonore apaisante. Voilà, donc il faut enlever le casque pour pouvoir entendre les ambiances sonores apaisantes.
Ou alors se brancher.
Ou alors se brancher sur les ambiances sonores apaisantes. D'accord. Et toutes ces innovations peuvent sembler farfelues.
Ah, non. Oui, non, du tout.
Néanmoins, elles portent sans doute en elles les germes d'une nouvelle ère d'objets à la fois futiles et utiles, dont on aura sans doute le plus grand mal à se passer dans les années à venir.
Bon. Bah, il faudra nous, enfin, revenir et nous faire une chronique, oui, voilà. En tout cas sur tous ces objets.
Retour vers le passé, cette
c'est
fois.
C'est ça. Et tu nous proposes quel genre de musique ?
Eh bien, la musique de Retour vers le futur, bien sûr. Et Marty McFly and the Starwater, Johnny B. Goode. Un peu de rock.
Actuel et lui.
Et bienvenue dans cette deuxième partie d'émission.
Même troisième partie.
Oui, c'est vrai que là, c'est plus compliqué que ça. Mais bon, on va faire simple. On va dire quand même qu'à chaque fois, c'est deux parties.
De toute façon, la partie est divisée en deux. On a un problème avec le temps dans cette émission.
Quand on aime, on ne compte pas.
C'est ça. Alors justement, vous écoutez une nouvelle voix. C'est la voix de Caroline.
Bonsoir, Caroline. Désolée pour le retard. C'est compliqué. Et ce jeudi midi, lundi soir.
On l'a déjà dit. Ça, c'est bon.
Tu as invité une amie.
Oui, j'ai invité une amie, Marie-Pascale Vincent.
Très bien. Qui va nous parler de...
Je vais vous parler du site des Chroniques Retrouvées du Midi, où on peut consulter la presse ancienne du Languedoc-Roussillon.
Très bien. Et toi, Caroline, tu nous parleras tout à l'heure des Enfoirés, je crois.
Peut-être pas, finalement.
Alors, on avait annoncé...
Ouais, mais bon, vous verrez, c'était pas terrible. D'accord. Alors, peut-être je parlerai d'autre chose, finalement.
D'accord.
Et j'avais pas trop le cœur. Enfin, bon, on verra tout à l'heure.
Bon. Alors, en tout cas, toi, Guillaume, tu as le cœur à nous parler de Presse Insolite.
Oui, alors, en fait, depuis plusieurs semaines, Ludo me transfère des mails. Je ne sais pas vraiment pourquoi il me les envoie spécifiquement, hein, puisque ceci parle d'infidélité.
Ah, j'ai peut-être un message.
Oui, peut-être.
Un message codé.
J'ai donc considéré que notre directeur de la rédaction de 48FM trouvait que ces actualités devaient être traitées par notre émission d'ActuLight, hein, Actuel et lui. Et je profite donc de notre émission d'aujourd'hui pour nous débarrasser de ces trois mails consacrés à l'infidélité envoyés par le service de presse de Victoria Milan, je le cite qu'une seule fois. Un site donc de rencontres extra-conjugales pour personnes en couple. Alors, le 11 décembre dernier, il nous annonçait que les chauffeurs de taxi gagnaient 7 millions d'euros par jour grâce aux époux infidèles. Alors, ces résultats sont issus d'une nouvelle enquête menée parmi les 11 000 membres du fameux site de rencontres. Et la majorité des infidèles interrogés, 40%, nous disent qu'ils préfèrent le taxi en tant que mode de transport lorsqu'ils ont une aventure. Le métro est utilisé par 32%, 16% prennent le bus et 12% le tramway. Une majorité des participants qui utilisent les taxis, 62%.
On a peu de chance, Amanda.
Nous apprennent qu'ils dépensent en moyenne.
Il faut être souple, surtout. Parce que je me dis,
c'est-à-dire que le taxi, tu le connais.
Le métro, c'est grillé. Le tram, c'est pareil.
Donc, je finis quand même. La majorité des participants qui utilisent les taxis nous
apprennent. C'est pour ça qu'il faut être souple.
Non mais voilà, si vous commencez là, on va jamais tenir.
Avec ce genre de sujet,
ah bah quand même, on va pas se taire.
Mais attendez, moi je viens de comprendre, vous imaginiez que ça se passait dans...
Bon, donc la majorité des participants qui utilisent les taxis, 62%, nous apprennent qu'ils dépensent en moyenne 30 euros par voyage pour aller à la rencontre de leur amant ou de leur maîtresse. 13% dépensent moins de 20 euros, 25% enregistrent des courses de 30 à 60 euros. Donc en fait, selon les calculs du site, les Européens infidèles dépensent 104,94 euros par mois en taxi pour les transporter vers leurs unions infidèles. C'est très précis. Donc si on calcule donc, les dépenses de taxi, elles reposent sur les résultats de l'enquête, extrapolées au nombre global de membres du site, 5 millions de membres, multipliées par la quantité de rendez-vous que les infidèles ont chaque mois, 3,3 fois, et la moyenne dépensée en taxi pour chaque course,
c'est pas bien pratique.
31,8 pour chaque course, ce qui représente un revenu mensuel de 209 880 000 euros à l'échelle mondiale de l'industrie du taxi.
Je voudrais pas faire de blague sur le FMI, mais moi je viens de trouver comment on fait de la relance mondiale là, non ?
C'est ça. Après, donc le 16 décembre, deuxième communiqué, nous apprenions que les hommes français veulent avoir une aventure avec Karine Ferry. Alors, être sexy, connu et riche est la combinaison gagnante que l'on trouve souvent chez les personnalités féminines du petit écran, écrit donc le fameux service de presse du site concerné. Notre site de rencontres extra-conjugales pour personnes en couple a interrogé 3126 hommes infidèles, membres du site, pour découvrir avec quelle star de télévision française ils aimeraient avoir une aventure et pourquoi. Et la présentatrice télé au top du classement en France est donc Karine Ferry. Une femme avec un style sexy, un corps incroyable et une carrière professionnelle réussie avec 39% des votes. La deuxième place est attribuée à Karine Le Marchand, hein, qui a obtenu 23% des votes. Et Nora Malagré est arrivée en troisième position avec 19%. Ensuite, on trouve Sandrine Quétier à 14% et Estelle Denis à 5%.
Je sais même pas qui c'est, moi.
Ben voilà.
Je suis pas à la télé en même temps, c'est pour ça. Ouais. T'aides pas.
Ça doit jouer un peu.
En même temps, de toute façon, on ne demande qu'aux hommes, Julia. Donc,
Voilà le questionnaire pour les femmes.
Ah, vas-y. Ah, je prépare mon buzz.
Le 13 janvier, nouveau mail intitulé « Avoir une aventure avec un collègue ou un supérieur est le fantasme numéro 1 des femmes infidèles françaises ».
Oui, donc ça, pas. C'est Ludovic qui t'envoie ce mail.
C'est ça.
Et tu ne te poses pas de questions.
À moi, non.
Aucune.
Aucune. Donc, notre site de rencontre pour personnes en couple a sondé l'inconscient des femmes françaises. Pour révéler que plus de 85% avaient une imagination très active. Alors que le professeur de yoga ou encore une femme font apparition dans le top 5 des votes, le site a découvert que 18% des Françaises fantasment sur leurs collègues ou leurs supérieurs. Voilà, le fruit défendu, c'est-à-dire les amis, voire même le meilleur ami de leur conjoint, est le rêve de près de 15% des Françaises, arrive juste derrière, donc en troisième position. On retrouve aussi l'ex-petite amie avec 12% des votes. Donc voilà,
Julia, le collègue ou supérieur, tu as quelque chose à nous dire ?
Bah, je pense qu'en fait, il a découvert que je fantasmais sur lui, quoi. Mm-hmm. C'est juste ça. Bon, ça me met un peu mal à l'aise d'en parler ici, mais, mais voilà, bon, tant pis.
Libère ta parole, Julia.
Pudo, je t'aime. Voilà, c'est dit.
Voilà. Bon, donc je me suis débarrassé de ces communiqués. Hein. Mais on va rester quand même dans ce thème avec quelques actus insolites et on commence par les conséquences parfois dramatiques de l'infidélité. Et donc, le site ladépêche.fr titre « Trompée, elle coupe deux fois le pénis de son mari ». Et deux fois, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, furieuse d'avoir été trompée,
c'est
une chinoise...
C'est pas Ludo, ça, qui te l'a envoyé.
Non. Ça, c'est mes recherches personnelles.
Oula.
Furieuse d'avoir été trompée, une chinoise a coupé à deux reprises le pénis de son époux. Les faits se sont déroulés fin décembre dans la province centrale du Yunnan, selon le site d'information HNR, contrôlé par les autorités, attention, c'est de l'information vérifiée par... voilà. Juste après avoir découvert l'infidélité de son mari, Madame Fan l'a agressée une première fois, lui coupant net le pénis. La victime, âgée de 32 ans, s'est alors précipitée à l'hôpital, où les chirurgiens ont suturé l'organe sectionné. Mais la soif de vengeance de l'épouse trompée n'était pas étanchée.
C'est atroce.
Elle s'est donc rendue à l'hôpital pour lui sectionner une deuxième fois le pénis.
Mon Dieu.
Le mari volage a donc été de nouveau opéré, mais les policiers n'ont pas pu retrouver la verge la deuxième fois. Le double acte violent a semble-t-il, consolidé la relation entre l'infidèle et sa maîtresse.
Ah oui.
Puisque les deux amants ont décidé finalement de se marier.
Tout est bien qui finit bien.
Il a dû lui acheter un sextoy, non ?
C'était c'est une collègue ça. De travail ? On ne sait pas.
Non, je ne sais pas.
C'était sa supérieure.
Ben, voilà, c'est ça qui aurait été intéressant de savoir.
Et il a pris le taxi pour aller la rejoindre.
Voilà. Alors, parlons maintenant d'amoureux qui prennent des risques. Et c'est le point.fr qui raconte cette histoire intitulée « Ils font l'amour sur les rails du métro de Moscou ».
Ah bah vous voyez, pas que dans les taxis.
Mais non. Le métro de Moscou a lancé vendredi des contrôles de sécurité de son réseau après l'exploit d'un jeune couple qui s'est introduit dans un tunnel du réseau souterrain pour faire l'amour sur les rails. Le couple qui a posté sur internet des photos de ses ébats sur les rails avait choisi comme nid d'amour le tunnel réservé aux trains détournés en cas d'urgence. Si un tel incident avait eu lieu sur une voie constamment utilisée, les délinquants auraient été découverts et attrapés immédiatement, à l'instant même où ils seraient entrés dans le tunnel, assurée la direction du métro moscovite. Celle-ci a cependant annoncé mener vendredi une série de vérifications d'urgence afin de découvrir comment le jeune couple a réussi à accéder à l'un des tunnels. Ce qui, en fait, leur posait quand même problème, c'est qu'ils étaient tout proches du Kremlin, et donc que ça pouvait être aussi
une façon de faire un attentat.
Voilà, tout à fait. Alors on termine avec une belle histoire, toujours dans ladépêche.fr, qui est intitulée « Elle découvre qu'elle assiste à son propre mariage ». En fait, c'est une surprise assez incroyable qu'a voulu faire un jeune homme à sa femme, enfin à la femme de sa vie avant qu'elle soit sa femme. Brian souhaitait épouser Christina, mais savait qu'elle serait très stressée par les préparatifs d'un mariage. Il a donc décidé de tout organiser sans rien lui dire. Et donc, d'après le site 7 sur 7 qui relaie l'histoire, Brian a convaincu sa compagne de rendre service à un ami en participant à un shooting photo où elle serait habillée en mariée. Et lorsque la jeune femme est arrivée sur les lieux du rendez-vous, superbe, dans une longue robe blanche, elle a eu le choc de voir que tous ses proches étaient présents. Très vite, Christina n'a pas pu retenir ses larmes de joie et d'émotion en comprenant qu'elle allait assister à son propre mariage. Voilà, mise en ligne sur YouTube le 23 décembre dernier, la vidéo de ce moment touchant connaît, vous l'imaginez, un très grand succès auprès des internautes.
Ils avaient fait la même chose avec un internaute.
C'est ton côté fleur bleue, c'est Guillaume qui ressort après.
Bah oui, quand même, après la fidélité, il fallait quand même.
Non, mais c'est surtout le gars, heureusement que sa femme lui a dit oui, parce que
si elle avait pas voulu.
Salut. Allez.
Je sais pas si elle aurait dit non quand même.
Bon, bon après je pense qu'il s'aimait quand même bien.
Avec tout le mal qui s'était donné et tout.
C'est bien. Ouais, 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 ouais,
allez. Ouais, ouais, je pense qu'ils auraient eu des doutes ou enfin voilà, ça aurait été voilà.
Bon, alors Guillaume, tu nous proposes quoi comme musique ?
Alors, je me suis dit, comme j'ai récupéré il n'y a pas très longtemps tous les albums du...
Chantal Goya.
Non.
Nana Mouskouri.
Du top 50.
Ah, Sheila.
Je me suis dit, tiens, je vais aller chercher là-dedans et je vous propose Femme libérée de Cookie Dingle. Voilà. On se retrouve, on est toujours dans la deuxième partie, hein, pour la deuxième partie de la deuxième partie, et c'est donc mon invitée, Julia, qui va nous parler des roues.
Oui, alors d'abord, merci à vous de m'avoir...
Des roues de
charrette. Ah.
Voilà, c'était la bonne blague. Elle l'avait prévue pour plus tard, donc
je vais la refaire pour les gens qui n'ont pas entendu Caroline. Juste peut-être remettre un contexte. Donc mardi dernier, Guillaume est venu me voir en me demandant si je voulais pas participer au prochain Actuel et lui. and Friends, en m'expliquant qu'il s'agissait de rien de bien compliqué, simplement de trouver un thème d'actualité et d'en traiter durant 2 pages. Donc déjà, si je peux me permettre une petite parenthèse, j'aurais donné une durée en minutes, plus qu'en ligne, mais enfin ça, c'est pas grave.
Ce n'est pas le sujet. Elle se la pète, ton invité.
Oui, oui, non, mais tu sais, je suis une professionnelle de la radio, Caroline. Je fais la météo,
collègue
tout ça.
Collègue de Ludovic.
Collègue de Ludovic.
Pardon.
Enfin bref, c'est pas le sujet aujourd'hui. Donc, toute contente, je me suis mise en quête d'un thème d'actualité à proposer. Et naturellement, je suis tombée sur le thème des roues qui fait mon actualité depuis ma naissance, puisque je suis rousse. Donc, les roues, mais pas les roues de vélo. Merci Caroline d'en avoir parlé. Même si, cela dit, les roues de vélo font aussi beaucoup partie de mon univers depuis que je suis toute petite, puisque mon père et mon frère font beaucoup de vélo, mais ça n'intéresse personne. Donc, voilà, j'espère juste que vous accepterez de me reprendre un autre jour dans une autre émission, même si je ne suis pas sûre, vu comment ça commence.
Non, mais t'inquiète pas, on va attendre la fin, on te dira à la fin.
Ok.
Si tu arrives à placer roue de charrette maintenant.
Roue de charrette, j'y pense. Donc, revenons-en aux roues, qui, au-delà d'être au cœur de mon actualité personnelle, dont très objectivement tout le monde se fout, était mise à l'honneur la semaine dernière. Parce que oui, chaque 12 janvier, c'est la journée internationale de la célébration des roues, le Kiss a Ginger Day, donc le jour où l'on embrasse un roux. Donc c'est une idée du Canadien Derek Forgier, roux de son état, qui avait en 2009 proposé sur sa page Facebook, à titre personnel au départ, une petite action pour lutter contre le harcèlement des roux. Cette action n'était pas spontanée puisqu'elle venait en réponse à la série South Park qui proposait une journée intitulée Kick a Ginger Day, donc la journée où on frappe un roux, et qui malheureusement avait été prise au sérieux par bon nombre de personnes qui en avaient profité pour fracasser des roux toute la journée. Donc il faut savoir que cette aversion...
Tu nous inquiètes, quelqu'un te frappe, Julia ? Tu veux nous en parler, finalement ?
Tu veux nous parler de Ludo, hein,
de
Julia,
finalement,
hein ? Non, mais c'est surtout qui t'a embrassé le 12 janvier ?
Qui t'a frappé, Ludo ?
Ben, non, mais on en parlera après.
Ah. Ouh là là, la relation...
Pas dommage.
Ça me met un petit peu mal à l'aise, quand même. Parce que moi, je le vois demain, je passe encore la journée avec lui, ça va être compliqué.
Et tes parents écoutent ou pas l'émission ?
J'espère pas.
Ils font plus de vélo.
Oui, quand ils font plus de vélo, ils écoutent 48 FM.
Avec un casque et tout, là.
Avec un bandeau casque.
Au lit, au casque, au lit.
Voilà.
Bon, allons-y, continuons.
Et donc, voilà, cette aversion pour les roues ne date pas d'aujourd'hui, puisque l'antiroucisme, parce que le terme existe, est apparu au 4e siècle avant notre ère. Donc avec les débuts de la physionomie, donc qui est une...
Au 4e siècle avant notre ère, donc avant Judas.
Ouais.
Moi qui croyais que c'était le premier roux.
Et voilà. Déception, chez Aurélie.
Je suis désolée.
Tout un pan de l'histoire s'écroule.
Non, il y avait des roues avant. Alors, j'ai pas les noms, s'ils n'avaient pas Facebook, mais je chercherai si tu veux. Oui, d'accord, très bien. Donc oui, c'est apparu avec la physionomie, donc qui est une pseudo-science qui associe le physique des gens à leur caractère, puis le zoomorphisme. Et donc avec le zoomorphisme, les roues subissent de plein fouet l'apparition de théories, donc comme quoi les hommes correspondent à un animal. Et donc nous, on aurait pu penser à un écureuil, mais pas du tout. On est tombé sur le renard et les porcs roux. Alors, j'ai jamais vu de porc roux, mais enfin, voilà. Donc les renards et cochons ont mauvaise presse. Les premiers seraient fourbes et croqueurs de poules, et les autres sales et lubriques. Donc si on ajoute à cela que le roux évoque la couleur du feu, donc des flammes de l'enfer, on arrive à des comparaisons satanistes qui sont pas tellement plus sympas. Donc maintenant que j'ai détendu l'atmosphère et créé une bonne ambiance pleine de joie et de bonne humeur, je vais pouvoir vous parler du pourquoi et comment on est roux. Donc pour qu'un enfant soit roux, il faut que ses deux parents portent le gène en eux.
Alors Julia, comment on fait des bébés roux ?
C'est quoi Guillaume, cette bouteille de lait ?
Oui, donc pour qu'un enfant soit roux, il faut que ses deux parents soient porteurs du gène. Voilà, vous m'avez perdu, merci.
Voilà.
C'est le but. Hein.
Voilà, donc les parents ne sont pas forcément roux, mais ils doivent porter le gène, les deux, puisque c'est un gène récessif. Merci, le bac S. Pardon. Et donc l'enfant a 25% de chance de naître roux, et même s'il n'est pas, il sera lui-même porteur du gène. Donc peut-être que vous êtes roux intérieurement, mais vous ne le savez pas. Voilà, donc ensuite, on va parler un petit peu...
On échappe d'être frappé par Ludo, ce qui est quand même une bonne nouvelle.
Tu dis que c'est une chance, mais vu ce que tu nous dis, c'est pas sûr. 25% de chance d'être roux. Peut-être de malchance d'être roux.
Non, c'est une chance.
Tu veux que Julia pleure, ne lui dis pas ça. T'as beaucoup de chance d'être rousse.
Merci, Aurélie.
Surtout que t'es plutôt châtain clair, quand même, non ?
Châtain clair, alors ça, c'est la première fois qu'on me le dit.
Bon, moi, je t'ai jamais vu rousse. Hein.
Mais c'est, ça
la
doit être les néons.
Que ce petit vin reculé 2012, non. Complice de Pécho, a encore frappé.
Alors, je suis pas pâle de carotte, mais je suis au burn.
Voilà. Blond vénitien.
Voilà. Ça. Mais il y a tout un panel de roues. Voilà. De roues de charrette.
C'est bravo, elle a le droit de revenir.
Merci. Donc ensuite, on va parler un petit peu plus technique. Donc, lorsque vous avez la chance, Guillaume, oui, de faire partie de ces rares élus, puisque les roux ne représentent qu'un à 2% de la population mondiale, vos petits gènes vont produire, concernant la couleur des cheveux, des cellules appelées mélanocytes. Jusqu'à là, rien d'extraordinaire, tout le monde en produit. Donc ces cellules vont elles-mêmes produire, grâce à des acides aminés, une protéine appelée mélanine, qui possède deux déclinaisons. Le mélanine de couleur rouge à noir, qui ne nous intéresse pas ici, et la phaéomélanine, truc assez imprononçable, de couleur jaune et rouge, et qui est la protéine qui est responsable de la couleur des cheveux roux. C'est aussi à cause d'elle que les roux... non, c'est pas bien de tourner ça. C'est à cause d'elle qu'on dit que les roux sentent mauvais. Puisque, en réalité, la phaéomélanine contient près de 10% de soufre. Et donc, la transpiration sur une peau contenant du soufre donne une odeur différente.
C'est pour ça qu'on t'a isolée.
Oui, mais j'apprécie que très moyennement.
Et qu'on a laissé la porte ouverte.
Voilà.
Je précise que je n'ai pas du tout eu peur de m'asseoir à côté d'elle.
Et on te remercie, Marie-Pascale.
Elle t'a payé combien, Julia, pour dire ça?
Par contre, on pourra peut-être ouvrir la fenêtre.
Bon, je ne sais pas si... vous me ferez peut-être revenir. En revanche, je ne sais pas si j'accepterai.
C'est des ça. Blagues. Hein,
oui, même. Mais voilà. Mais c'est pour ce genre de blagues, justement, que j'ai voulu faire cette chronique.
Bon, on te rassure, il n'y a pas que les roux qui sentent mauvais, Julie. Hein.
Ah bon, on peut donner des noms.
Bon, ceux qui ne se lavent pas.
Il y a ceux qui se lavent pas, qui peuvent être roux ou pas.
Voilà. Les roux se lavent donc.
Certains roux se lavent. Moi-même, je me lave régulièrement.
Ah, voilà. On va tout savoir sur donc les roux.
Après avoir tout su ce que tu faisais dans ta chambre avec 10 personnes.
Enfin, tout su.
Avec des personnes qui sont peut-être rousses, Aurélie. Non.
Je ne me prononcerai pas.
Très bien. Ça veut dire oui. Donc. Scientifiquement, la rousseur est considérée comme une anomalie, puisque sans parents roux, la probabilité qu'un enfant soit roux n'est que de 3%. Quelques statistiques maintenant. Donc, l'Écosse est le pays qui détient le plus fort taux de rousseur au monde, avec 13%, juste devant l'Irlande qui compte 10%.
Et le kilt aussi, mais ça n'a aucun rapport.
Non, mais si oui, tu veux, on peut en parler.
C'est bien assorti avec le vert du kilt.
Oui, tout à fait.
Il se porte sans slip, rappelons-le.
Mais c'est pour... c'est pour mettre en valeur la rousseur où qu'elle soit.
Je sens qu'on n'est pas arrivé à la fin de cette émission aujourd'hui.
Donc vient ensuite l'Irlande avec 10%, et en France on ne compte que 5% de roux. Voilà. Et les roux les plus rares sont les roux aux yeux bleus, puisqu'ils font, ils sont 1% des 1% de la population. Aurélie, quelque chose à dire?
Les roux les plus rares.
Voilà. Voilà, non mais c'est bien, exprimez-vous, voilà, on est là pour ça, hein. Allez-y. Donc quelques caractéristiques de notre communauté, on va pas y arriver, hein. Les roux ont moins de cheveux, mais ceux-ci sont plus épais. Donc, on va parler tous les deux. Très bien, donc ça je...
Vous avez vu comment Guillaume y protège sa friends, hein? Voilà.
Oui, ben heureusement qu'il est là.
Comment vous êtes désagréable avec
lui. Mais peut-être que Guillaume est un roux...
caché.
Regardez ma barbe.
Non mais tout
ça, blond vénitien.
De toute façon, je sais que vous êtes comme ça parce que vous êtes jalouse. Elles sont ça. Bon, allez.
Donc, elles se font des mèches rousses.
Elles se font des mèches rousses.
Au moins.
Donc, les roues ont moins de cheveux, mais ceux-ci sont plus épais. Donc ça, je mets un petit veto, parce que moi, perso, j'ai loupé un truc sur ça. Les roues sont plus résistants à l'anesthésie, aux antidouleurs, et plus sensibles aux changements de température. Bon, à vérifier. Les roues n'ont pas de cheveux gris. Et donc là, c'est une blague pour vous, les filles. Les roues ne vieillissent pas, ils rouillent. Et oui. Donc c'est une autre particularité du type de cheveux qui retiennent leur pigmentation plus longtemps et qui, de ce fait, ne passent pas par la couleur grise. On passe donc les roues deviennent petit à petit blond, légèrement rosé, jusqu'à devenir blanc argenté. Donc, je vous disais...
On a perdu complètement Anne-Marie.
Ah non, je suis là.
Donc, je vous disais tout à l'heure que les roues ne représentent qu'un à 2% de la population mondiale, mais aujourd'hui, on va plus loin, l'heure est grave. Les roues sont peut-être amenées à disparaître à cause du réchauffement climatique. Et oui, selon un rapport
d'experts... Il a bon dos, le réchauffement climatique. Non, pas de grizzly, l'ours polaire, pardon. Parce que les roues, ils sont d'abord qui...
Oui. Alors là, je suis un peu pris de
court. Prenez une demi-RTT pour écouter toute l'émission.
Voilà.
Ça va être dur. Hein. Je pense qu'on va être obligé.
Bien.
J'ai presque fini. Ne vous inquiétez pas.
Allons-y.
Oui. C'est bon ?
Oui.
Allez, on y va. Bah, donc, selon un rapport d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, certains estiment que la température pourrait augmenter de 4,8 degrés d'ici 2100. Donc, on sait déjà que ça va causer de graves problèmes sur notre écosystème et sur des espèces animales. On pourrait notamment citer les chevreuils, pourquoi pas. Mais le réchauffement pourrait avoir une conséquence plus inattendue, qui est l'extinction des roues. Dans un article de The Independent, le docteur Alistair Moffat explique que nous pensons que les cheveux roux en Écosse et en Irlande et dans le nord de l'Angleterre sont le résultat d'une adaptation au climat. En clair, les cheveux roux sont là pour mieux assimiler le peu de soleil et les vitamines D dans ces régions. Si le climat change et qu'il devient plus ou moins nuageux, alors il y aura moins de personnes porteuses de ce gène, explique le docteur Alistair. Donc ça, à mon avis, ça... possible dans un monde où il n'y a pas de climatisation, de crème solaire, etc. Mais je ne suis pas docteur, donc pourquoi pas.
Marie, ça serait bien d'arrêter de jouer avec le thermostat du radiateur, là. Hein, pour ne pas exterminer le tien.
Mais elle est déjà là, donc elle ne va pas partir comme ça.
Non, je ne suis pas là avec vous.
Vous croyez qu'elle va se noyer s'il y a le réchauffement climatique?
Bref, dans tous les cas, heureusement, en Lozère, nous avons la chance d'avoir des personnes très concernées et préoccupées par la situation. Et oui, vous connaissez peut-être la fameuse association lozérienne qui se bat pour la sauvegarde et la réimplantation des roues et des zèbres sur le territoire et qui a en activité mineure la gestion d'un festival et d'une saison culturelle, le Roux Boy Crew. Donc l'équipe du garçon roux pour les non-bilingues. Donc j'ai eu le privilège de rencontrer l'homme qui a l'initiative de tout ça, lui-même un roux et fervent défenseur de sa condition. Il est aujourd'hui responsable de l'association et délégué national de la Fédération des Roues de France. Donc j'ai nommé Sébastien Kuhn. On écoute tout de suite son interview. Bonjour Sébastien.
Bonjour Julia.
Donc vous êtes délégué national de la Fédération des Roues de France et également responsable de l'association Le Roux Boy Crew qui se trouve au Blémard.
Tout à fait.
Alors est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette association? Quel est le but? Comment c'est né?
Alors l'association Roux Boy Crew, le but c'est la réintégration et la sauvegarde des roues et des zèbres en milieu rural. Alors comment c'est né? Ben c'était avec une amie à moi, Sophie Arlotto, qui elle adore les zèbres et qui a envie de travailler pour la réintégration et la sauvegarde des zèbres en milieu rural. Et moi qui suis roux et qui avait la même problématique, c'est-à-dire de réintégrer le roux en milieu rural, parce qu'il n'y a pas beaucoup de roux en milieu rural. Du coup on s'est dit, si on fait chacun une association tout seul dans notre coin, ça n'aura pas de poids. Donc nous allons créer cette association à deux, puisqu'il faut être au minimum deux pour créer une association. Et c'est en avril 2012 que nous avons créé le Roux Boy Crew.
Et est-ce qu'il faut absolument être roux pour faire partie de l'association ou on peut... Parce que je vois un jeune homme brun là-bas.
C'est notre secrétaire, lui. Pour être exploité par l'association, pas du tout. Par contre, pour prendre les décisions, oui, soit être roux, soit être lié avec un zèbre, très fortement. Voilà. Donc c'est pour ça que nous ne sommes que deux pour l'instant, mais bon, on revisera peut-être les statuts quand la réserve des roues du Blémard sera mise en place, puisque c'est notre grand projet à l'horizon 2018. Nous espérons grandement pour y arriver.
D'accord. Est-ce que vous avez des actions phares durant l'année pour la promotion du roue, peut-être, ou?
Oui, alors nous aurons cette année, le 15 août 2015, une course de roues sur zèbre. Donc ça sera la troisième biennale. Voilà, donc il commence à avoir son petit public, hein, puisque des gens viennent du monde entier pour cette course-là.
Est-ce que vous allez participer aux Jeux Olympiques de roues de Dublin en 2016?
Alors, dans le cas de la Fédération Nationale des Roues de France, oui. Mais moi, j'y participerai peut-être simplement en tant qu'invité, parce que je suis un peu fâché contre les Olympiques des Roues. Ils ont refusé de mettre la course des roues sur zèbre au programme. Donc voilà, on va essayer de militer un peu. Si jamais ils le mettent en place, bien sûr, j'y participerai.
Il me semble que la semaine dernière, vous avez rencontré la ministre de l'écologie, donc Ségolène Royal, pour lui parler de la problématique de la disparition du roux due au changement climatique. Est-ce que vous avez l'impression que vous avez été écoutée, entendue?
Alors, on n'a qu'à voir dans l'actualité politique du moment, hein, comment Ségolène Royal réagit aux problèmes écologiques. Je ne crois pas qu'elle apportera les solutions qui sauveront les roues. J'ai entendu dire qu'elle avait des griefs contre les roues, donc c'est bien dommage. Mais non, mais surtout, la problématique, elle est effectivement que si la planète se réchauffe trop, les roues vont être vouées à disparaître. Après, ceci dit, pour notre association, le seul côté positif, c'est que le réchauffement climatique au Blémard, il est pas si violent que ça. Du coup, on compte sur le fait que beaucoup de roues se réfugient et peut-être repeupler ce canton de roues.
Peut-être terminer par nous donner vos trois roues préférées, peut-être vos idoles.
Oui, alors moi-même, Poil de Carotte et Mylène Farmer, bien sûr, qui est, je pense, la plus grande représentante des roues du monde.
Mylène Farmer, qui est militante à la délégation nationale.
Alors, elle l'a été. Hein, elle est plutôt militante à la délégation nationale de la musique populaire.
Merci beaucoup. Voilà, donc de beaux projets, un bel engagement, et je tiens encore une fois à remercier Sébastien pour sa disponibilité, même si on le sait bien, la lutte qu'il mène, c'est une lutte de chaque instant. Donc voilà, si vous souhaitez adhérer à l'association, vous pouvez prendre contact avec eux directement via leur site internet. Et pour terminer, je vais peut-être citer des roues célèbres. Sébastien nous parlait de Mylène Farmer, Poil de Carotte, vous en connaissez-vous, des roues célèbres?
Nicole Kidman.
Nicole Kidman, elle est rousse? Non, elle est blonde. Oui, moi je suis célèbre. Non, alors il y a Julia Roberts.
Ah oui.
Ben oui. Alison Hannigan, qui joue donc Lily dans How I Met Your Mother, Marcia Cross, Gillian Anderson de X-Files, le prince Harry.
Ah oui.
Rupert Green, qui joue Ron dans Harry Potter, et mon chouchou, Ed Sheeran. Et puisqu'on parle d'actualité, j'en profite.
Le prince Harry?
Oui, elle l'a dit.
Ben voilà, c'est
vous
ça.
Vous pouvez répéter la question?
Elle fait des messes basses dans son petit coin. Hein,
j'étais persuadée que Nicole Kidman était rousse, donc j'en parle à Aurélie qui me dit non, c'est plutôt blond vénitien, donc j'avais pas écouté le prince Harry.
Et donc j'en profite, puisqu'on parle d'actualité, pour vous dire qu'il sera en concert le 1er février au Zénith d'Auvergne, à Cournon, et que j'ai deux places à vendre. Donc si vous êtes intéressé, contactez-moi au bureau de 48FM par mail ou par téléphone. Et j'ai raconté beaucoup de bêtises, mais ça c'est vrai. Donc si vous êtes intéressé par les places, contactez-moi. Donc,
en plus, vous pourrez aller au spectacle avec Julia.
Non, vous irez sans moi, mais avec mes places, mais c'est bien aussi.
C'est
donc voilà, et du
dommage,
coup, ben,
parce que aller avec Julia, une rousse, c'était pas mal.
Voilà.
Oui, mais peut-être que Julia recherche un roux.
Julia recherche un roux. Ben, s'il ressemble à ceux de l'exposition, il y a une exposition qui a été faite sur les roux l'année dernière, qui s'appelle Red Hot, qui a été faite par Thomas Knight. Donc c'est 100 photos de roux sexy. Et allez voir. Sur internet. Vraiment, ça peut changer votre vision des choses, du monde, de l'univers tout entier. Voilà, donc on peut se quitter avec Bloodstream de Ed Sheeran.
By my side, I got sinning on my mind.
sipping on red wine. I've been sitting here for ages, ripping out the pages. How'd I get so faded? How'd I get so faded? Oh, no, no, don't leave me lonely now. If you love me, how'd you never love? This is how it ends. I feel the chemicals burn in my bloodstream, fading out again. I feel the chemicals burn in my bloodstream. So tell me when it kicks in. Kicks in. I've been looking for a lover, thought I'd find her in a bottle. God make me another one, I'll be feeling this tomorrow. Lord forgive me for the things I've done. I was never meant to hurt no one. I saw scars upon a broken hearted lover. Oh no, no, don't leave me lonely now. If you loved me, how'd you never learn? Ooh, color crimson in my eyes. One or two could free my mind. This is how it ends. I feel the chemicals burn in my bloodstream, fading out again. I feel the chemicals burn in my bloodstream. So tell me when it kicks in. Well, tell me when it kicks in. Kicks in, all the voices in my mind calling out across the line. All the voices in my mind calling out across the line. All the voices in my mind calling out across the line. All the voices in my mind calling out across the line. All the voices in my mind. And I saw scars upon it. Tell me when it kicks in. Broken heart. Tell me when it kicks in. And I saw scars upon it. Tell me when it kicks in. Broken heart. Tell me when it kicks in. And I saw scars upon it. Tell me when it kicks in. And I saw scars upon it. Tell me when it kicks in. Broken hearted. Tell me when it kicks in. And I saw scars upon it. Tell me when it kicks in. Broken hearted.
Actuel et lui.
Actuel et lui.
Actuel et lui.
Et voilà, on se retrouve pour la troisième partie de l'émission. J'ai de la quiche partout.
C'est une grande émission.
Mais oui. Nous retrouvons Caroline. Mais il n'y a pas de transition.
Il n'y a pas de lien de cause à effet.
Ouais. Traite-moi de quiche et je te
non,
dirai rien.
Il n'y avait pas de transition. Et donc, tu vas nous parler apparemment des enfoirés, mais ce n'est pas sûr.
Alors, voilà, j'étais partie sur cette idée. Ça commence mercredi. C'est généralement l'événement musical du mois de janvier.
C'est à Montpellier.
C'est à Montpellier. Donc voilà, je m'étais dit quand même, c'est le sujet parfait pour Actuel et lui. Et puis, j'ai commencé mes petites recherches et très franchement, je ne sais pas si c'est les événements des derniers jours, mais il n'y a quasiment rien sur ces enfoirés 2015. Alors, si ce n'est un titre générique, hein, sur la route des enfoirés, une petite info tombée cette semaine pour se mettre un peu en appétit, qui nous dit que Nolwenn Leroy ne sera pas là cette année.
Super, hein, super.
Elle prépare sa tournée acoustique et donc ne pouvait pas être là sur toutes les dates. Or, semble-t-il, autre info, l'ensemble des artistes ont été priés d'être là sur toutes les soirées, puisque tout le monde paye le même prix, quel que soit le soir, et y compris les soirs d'enregistrement. Donc, contrairement aux autres années, apparemment, le deal, c'était que tout le monde soit là tout le temps.
Ça, c'est plutôt pas mal.
Ce qui est plutôt pas mal. Moi, j'y vais jeudi soir et j'étais un peu inquiète.
Je trouve que c'est pas mal non plus qu'il n'y ait pas Nolwenn Leroy. Je trouve pas que ce soit dommage. Mais
voilà.
Ça, parce qu'elle n'est pas rousse.
Mais... En dehors de ça, peu d'infos sur ces enfoirés 2015. Alors si une vidéo qui tourne aussi depuis quelques jours, qui est le titre de l'année, mais vraiment rien de plus. Alors bon, face à ça, et puis quand même aussi, parce que j'ai un peu du mal à reprendre une vie normale après la quinzaine de jours que nous venons de passer, et que j'ai un peu du mal à me détacher de la presse que j'ai achetée massivement depuis une dizaine de jours. Commence à avoir un gros tas à la maison. Mon mari m'a dit qu'il fallait que je lève un peu le pied parce qu'on n'allait pas s'en sortir. Mais bon, tant pis, voilà. Du coup, voilà, des enfoirés, j'ai un peu glissé vers quelque chose qui risque d'un peu plus plomber l'ambiance, mais tant pis. Je vais me lancer.
On a eu la dose de rire, hein, pour
aujourd'hui. Ouais, voilà, j'ai l'impression que c'est bon. Donc j'ai eu envie de vous lire deux textes, simplement, parce que ça me semblait important ce soir, dans justement tout cet humour nécessaire, hein, mais ce rire nécessaire, mais en même temps, voilà, j'avais envie de... Donc voilà, j'ai deux petits extraits. Le premier est un extrait, enfin, elle n'est pas un extrait, c'est une lettre d'Elisabeth Badinter, une lettre qui a été écrite le 9 juillet 2009, dans le Nouvel Obs, mais... qui malheureusement, 5 ans plus tard, garde tout son sens. Et vous connaissez ma petite fibre féministe que j'ai déjà fait résonner ici et qui m'a semblé bien d'actualité. Donc voilà, cette lettre s'intitule « Lettre à celle qui porte volontairement la burqa ». Après que les plus hautes autorités religieuses musulmanes ont déclaré que les vêtements qui couvraient la totalité du corps et du visage ne relèvent pas du commandement religieux, mais de la tradition, wahhabite en Arabie Saoudite pour l'un, pachtoun en Afghanistan et au Pakistan pour l'autre, allez-vous continuer à cacher l'intégralité de votre visage, disait Elisabeth Badinter aux femmes. Ainsi dissimulée au regard d'autrui, vous devez bien vous rendre compte que vous suscitez la défiance et la peur des enfants comme des adultes. Sommes-nous à ce point méprisables et impurs à vos yeux pour que nous refusiez tout contact, toute relation et jusqu'à la connivence d'un sourire ? Dans une démocratie moderne où l'on tente d'instaurer transparence et égalité des sexes, vous nous signifiez brutalement que tout ceci n'est pas à votre affaire, que les relations avec les autres ne vous concernent pas et que nos combats ne sont pas les vôtres. Alors je m'interroge, pourquoi ne pas gagner les terres saoudiennes ou afghanes où nul ne vous demandera de montrer votre visage, où vos filles seront voilées à leur tour, où votre époux pourra être polygame et vous répudier quand bon lui semble ? En vérité, vous utilisez les libertés démocratiques pour les retourner contre la démocratie. Subversion, provocation ou ignorance, le scandale est moins l'offense de votre rejet que la gifle que vous adressez à toutes vos sœurs opprimées qui, elles, risquent la mort pour jouir enfin des libertés que vous méprisez. C'est aujourd'hui votre choix, mais qui sait si demain vous ne serez pas heureuse de pouvoir en changer. Elles ne le peuvent pas, pensez-y.
Voilà.
Et voilà, c'est dit. Alors, je sens bien que ça plombe l'ambiance, mais je crois que c'est quand même tellement important. Les femmes sont aussi les mères. Alors, on parle en ce moment beaucoup de l'école, mais je crois qu'à côté de l'école, il y a quand même les parents qui doivent aussi tenir leur rôle, et les mamans notamment. Et c'est Christine Claire, une autre journaliste, une autre femme, qui, ce week-end, dans sa tribune ouverte dans Midi Libre, concluait une chronique appelée « À nous Simone, à nous Voltaire » en disant « Parlons des femmes, leurs conditions et comme la liberté de la presse, un marqueur des dictatures. On aurait aimé que le président de la République y insiste dans le discours annulé la veille qu'il devait prononcer vendredi pour les 40 ans de la loi Veil sur l'IVG. Simone Veil étant entrée dans le royaume du silence, à nous, les femmes reconnaissantes, de poursuivre son combat et d'oser enfin dire ceci, oui au voile léger, blanc ou beige, qui marque l'attachement à une tradition, mais non au voile noir, intégral, qui est le signe, comme jadis, pardon, je me perds, les chemises noires ou les croix gammées, d'une volonté de nous réduire. Voltaire aurait-il été tolérant pour un tel signe d'intolérance ? On devrait en tout cas lire dans les écoles son magnifique traité sur la tolérance. Et Christine Claire termine par ce paragraphe, la bouleversante histoire du protestant Jean Calas, accusé d'avoir tué son propre fils, converti au catholicisme et condamné en 1762 à un affreux supplice, fait penser au jeune Saoudien Badawi, condamné aujourd'hui à 1000 coups de fouet pour avoir préconisé sur son blog l'ouverture d'un débat sur l'islam. Face aux foules vociférantes du Pakistan et d'ailleurs, ces histoires de vrais héros et martyrs sont les meilleures réponses à apporter à nos enfants. Voilà, je voulais parler de ces deux choses ce soir parce que je crois que le combat continue. Je l'ai déjà dit, je crois, et je continue ce soir à être Charlie.
Alors, qu'est-ce que tu nous proposes d'écouter pour...
Eh bien, un petit hommage des femmes. C'est de circonstance. Je te remercie parce que tu as passé tout à l'heure Femmes Libérées. On est souvent sans se parler sur la même longueur d'onde. Là, ça s'appelle Les Françoises. C'était un hommage le soir de l'attentat dans l'excellente émission de Pascal Clart, live sur France Inter, de quatre chanteuses françaises à Charlie.
Je suis la pluie, je suis l'orage, je suis la femme, je suis la page, je suis les larmes, une aquarelle, je suis une fille avec deux ailes, je m'appelle Françoise, c'est comme ça dans ma vie. Les mots, l'amour, les phrases que je chante et j'écris sont mon seul parapluie. Je m'appelle Françoise et je vivrai ma vie. Sous le ciel qui s'embrase, je te ferai l'humour le jour comme la nuit. La belle statue, le sein offert, en passe en place de la répu. Même si mon cœur n'est pas de pierre, j'aime comme elle marcher pieds nus. Je m'appelle Françoise et j'ai un grand drapeau. Bleu, blanc, vert, rouge et mauve, toutes ces couleurs me sauvent des cocoricots. Je m'appelle Françoise et je vivrai ma vie. Sous le ciel qui s'embrase, je te ferai l'humour le jour comme la nuit. Ma garde-robe est sans tabou, slim, djellaba, sarouel, boubou. Être Françoise au quotidien, c'est un esprit, c'est un destin. Je m'appelle Françoise et j'ai un cuir à franges, un grand keffier orange, un col mao, ça change de peace and love, framboise. Je m'appelle Françoise et je vivrai ma vie. Sous le ciel qui s'embrase, je te ferai l'humour le jour comme la nuit. Je trouve pas les mots, j'ai pas d'ennemis, j'ai des crayons, alors j'écris. J'ai le prénom d'un beau pays qui s'indigne, qui chante et qui crie. Je m'appelle Françoise et dans ce beau pays, moi j'ouvrirai les portes, même si le vent s'emporte, je resterai ici. Je m'appelle Françoise et je vivrai ma vie. Sous le ciel qui s'embrase, je te ferai l'humour le jour comme la nuit. Je m'appelle Françoise et je m'appelle Marie. Et je m'appelle Fatma et je m'appelle Yachin, je m'appelle Jérémy. Je m'appelle Françoise et je m'appelle Ladji. Je m'appelle Anita, je m'appelle Mohamed et je m'appelle Charlie. la 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 la.
Actuel et lui.
Actuel et lui.
Actuel et lui. Nous revoilà pour ce coup-ci la dernière partie de la dernière partie de l'émission. Puisque j'ai bien compris qu'on fonctionnait comme ça ce soir.
C'est ça, c'est exactement ça.
Enfin, ce soir ou là, ce en milieu midi, de journée. Ce...
Voilà. Oui, enfin voilà, quand ça arrive quoi.
Cette émission quoi.
Et donc la parole à Marie-Pascale qui va nous parler des chroniques du midi.
Voilà, je suis pas sûre d'avoir choisi un sujet à la hauteur des autres, des premiers. Voilà, mais bon, j'ai décidé de vous parler des Chroniques du Midi, un site internet qui est consacré à la presse ancienne. Ces dernières années, la région Languedoc-Roussillon a lancé un vaste programme de numérisation des journaux anciens, des images aussi, des iconographies qu'on peut trouver dans les archives. Plus de 600 000 pages de journaux ont ainsi été numérisées et elle s'est demandé comment les mettre à disposition du public puisque la presse, rappelons-le, c'est aussi notre patrimoine commun et notre mémoire. On y trouve des anecdotes sur la vie de l'époque, on peut retracer les ambiances, la vie politique, etc. C'est des documents très intéressants. Elle a donc décidé de mettre en ligne tous ces documents à la fois sur une plateforme montée par la région qui est dédiée donc à cette presse ancienne, ainsi que sur les sites des bibliothèques et des archives qui abritent ces documents et qui étaient partenaires de l'opération. Mais bon, voilà, se lancer dans la découverte de la presse ancienne, cela peut avoir un côté austère. Et la région a décidé d'en proposer une approche plus légère à travers le site Chronique retrouvée du midi. Pour cela, elle a décidé de faire appel à des écrivains. Elle leur a demandé d'écrire des feuilletons qui s'appellent les feuilletons d'aujourd'hui et qui sont inspirés par l'histoire locale, un personnage ou un lieu emblématique de la région. Il y a donc toute une partie du site qui est consacrée à des feuilletons anciens et à ces feuilletons contemporains, avec un feuilleton qui va avoir un ton un peu particulier, puisqu'il a été écrit par une dizaine d'auteurs qui se sont passé la main de l'écriture, si on peut dire. Sur ce site, on peut également consulter la une des journaux il y a 100 ans, dans une rubrique appelée le kiosque, qui hélas ne fonctionne pas encore très bien. Mais bon, si vous avez de la chance, vous pourrez tomber sur la une du journal de votre région il y a 100 ans, puisque ce sont les journaux de tous les départements qui sont mis à l'honneur dans cette rubrique. On trouve également une partie consacrée aux réclames, où des réclames anciennes sont classées par thème, la femme, les objets ménagers, connecté, etc. Et en parallèle, la région a également demandé, Languedoc-Roussillon Livre et Lecture, a également demandé à des illustrateurs de s'inspirer de ces réclames pour les retraduire aujourd'hui. Et beaucoup s'en sont emparés avec humour. C'est une rubrique qu'il faut absolument consulter et qui est assez amusante. Sur le site, on trouve également des jeux qui sont proposés à partir des traditions locales, comme les joutes de Sète, où vous pouvez vous essayer à fabriquer votre vin ou à répondre à des questions sur la viticulture, un thème important dans la région. On trouve également des cartes postales anciennes qu'on peut envoyer par mail à ses amis, avec des baigneurs à Palavas-les-Flots, des choses comme ça, des places de village. Donc, pas mal de choses pour découvrir la presse ancienne tout en s'amusant.
Alors, on peut peut-être rappeler le site.
Alors, le site, c'est chroniquesdumidi.com.
Alors, ça fait écho à un projet aussi qu'à la région avec les radios associatives. Et bientôt, le portail existera avec l'ensemble des archives des radios associatives aussi. puisqu'on a dans un
faut-il
programme.
Faut-il garder ces archives là?
Et voilà, et donc nous serons archivés. Notre émission d'aujourd'hui sera archivée.
Ne sera jamais perdue.
C'est ça, jamais. Et donc voilà, ça, c'est... Et Julia part justement en formation sur ce sujet.
Quand les roues auront disparu, il restera une trace de leur combat.
C'est ça. C'est
oui,
ça.
Un devoir de transmission.
C'est voilà. Ça.
C'est beau.
Mais voilà,
la mémoire, t'en parlais tout à l'heure, Anne-Marie.
Mais c'est... Oui, c'était pour la Deuxième Guerre mondiale, mais c'est, les roues, c'est pareil, bon. C'est le voilà. Même combat.
Mais ouais. au-delà des blagues.
Vas-y, Guillaume.
Au-delà des blagues d'aujourd'hui, il y a dans les fonds d'archives de nos confrères, des vieilles radios. Des émissions aussi tout à fait intéressantes et aussi qui mettent en avant le patrimoine de la région sportif viticole etc. Enfin voilà et donc ce sera aussi un support qui sera ouvert à tout le monde chercheurs les gens qui veulent écouter aussi des choses en langue occitane en langue en catalan enfin voilà tout ça est en train de se préparer et donc c'est un grand programme de la région autour de cet archivage numérique et de valorisation de ces contenus donc c'était intéressant de voir qu'il y avait au-delà de la radio aussi la partie presse écrite.
Oui. Voilà et on trouvait également une rubrique qui géolocalise les faits divers par département. Donc on peut tomber aussi sur des petites perles ou sur des choses qui sont pas toujours tragiques, mais qui peuvent paraître amusantes, surtout avec du recul. Mmh. Et par rapport aux feuilletons, les feuilletons sont publiés deux fois par semaine, du mois de novembre au mois de juillet. Et on peut évidemment s'abonner pour être prévenu de chaque nouvelle parution.
Voilà, un site à mettre
pour les faits divers amusants, il y a la Lozère Nouvelle qui est pas mal. Voilà. Oui, alors là, tout le monde me regarde avec des gros yeux.
Ouais.
Je dis ça parce que j'ai lu un article très poignant sur les déjections canines. Voilà.
Ça peut être des défections aussi.
Ouais. Enfin, bref.
C'est un vrai problème.
Oui, mais c'était...
Parce que c'est pas toi qui tombais quand même sur cette crotte de chien.
Non.
Hein,
voilà.
Tu aurais eu les patins en roulette d'Anne-Marie tout à l'heure. Je peux t'assurer que...
Ouais.
Ah, elle a beaucoup écrit Anne-Marie après. Hein. Je n'ai pas de patin en roulette, non, mais ne vous inquiétez pas. Par contre, c'est vrai qu'il y a des crottes de chiens sur les trottoirs.
Qui sont très très dangereuses.
Merci de nous le signaler. Ah bon, on pourrait faire ça, les signaler avec un petit drapeau.
Les géolocaliser.
Je crois que ça existe, ça.
Le chien, tu lui fais avaler une puce pour que...
Non, je crois que... Que c'est possible.
Il y a un agent municipal qui fait ça tous les jours. Bon, sinon, on va peut-être passer à la musique.
Oui, voilà, parce que je crois que là ça devient n'importe quoi.
Alors, pour rester dans le domaine de la presse et de l'actualité, j'ai également choisi une chanson qui rend hommage à Charlie, l'hommage de Trio composé pour l'occasion.
Charlie, c'est ce qui t'a tué, Charlie, c'est pas Mahomet, c'est juste des enragés, Charlie. La France a pleuré, Charlie, mais ta liberté, chérie, elle est immortelle, tu la vois du ciel, le monde est cruel, mais la vie est belle. On a tué ta vie, Charlie, mais pas tes idées, Charlie. On va les chanter, mon frère, et ces cons vivront l'enfer. D'un monde libéré, Charlie, où on peut se marrer aussi. Au milieu du djihad, des vacarmes et des armes, il reste la culture, l'humour et la nature. Et je suis Charlie. Je vais le dessiner. Me revoilà, Charlie. Aujourd'hui et demain, c'est dit. À grands coups de dessin en hommage aux amis. Une grosse paire de seins sur un barbu écrit. Je suis plus fort que toi, petit. La honte d'Allah, c'est dit. Quand il te regarde, il pleure pour toi. Il se frotte la barbe et il ne comprend pas. Comment au nom de Dieu a-t-on utilisé
utiliser une arme contre un simple crayon. Tu vas pas nous faire perdre, t'as raté ton coup. Et la France toute entière restera debout. Et je suis Charlie. Saura se souvenir, Charlie, de toutes ces barres de rire, autant d'arakiri. On saura l'avenir aux familles, aux familles. Je te le promets, mon frère.
Ce sera dans la paix, mon frère.
On tuera la misère, la tristesse et la guerre. Et on laissera derrière ces connards en colère.
Et je suis Charlie.
Actuel et lui.
Actuel et lui.
Actuel et lui.
Bon ben voilà, il est quand même temps de rendre l'antenne.
Bon, moi je m'excuse. 15h
jeudi.
On a plein de blagues sur les roues encore.
Moi je m'excuse auprès de la Lozère Nouvelle.
Non, non, ne t'excuse pas. C'est juste que... c'est dit, c'est dit.
Oui, oui, mais c'est juste que c'est mon petit plaisir du vendredi, découvrir tous les faits divers de la Lozère. Mais non. Non, il y a Ludo avec moi quand je lis la Lozère Nouvelle.
Les plaisirs solitaires, c'est pour Caroline.
Oui, oui. Caroline, ouais.
Et c'est notre ami de la housse et l'ami Frédéric Lopez.
Tout à fait.
Voilà. Bon, mais on
non,
vous souhaite...
non, pas du tout la Lozère Nouvelle.
On vous souhaite à tous une très bonne quinzaine, hein, bien sûr.
Voilà.
Voilà, vous pouvez nous réécouter, bien entendu. Voilà. Ou si vous
nous
avez...
18h11.
C'est ça.
Et donc jusqu'à
23h. Jusqu'à 23h, voilà. Et puis donc le jeudi à midi, peut-être un peu avant midi et demi.
Prenez une
qu'on finisse avant 14h, voilà. Donc on vous souhaite une bonne quinzaine. Et puis merci à tous nos friends d'être venus nous partager leurs petites actus, leurs petites chroniques. Et vous êtes les bienvenus dans de nouveaux numéros à venir.
Même Julia.
T'es sûr?
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir à tous.
Au revoir.
Actuel et lui.
Actuel et lui.
Actuel et lui.